franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, la découverte du premier poisson à sang chaud, le Lamprise guttatus, ou encore saumon des dieux, ou encore opa. Eh bien, c'est un gros poisson carnassier de la famille des poissons lune qui vit dans les eaux froides, profondes et peu éclairées. Et une équipe de chercheurs américains vient de publier dans la revue Science une analyse physiologique qui a de quoi intriguer les spécialistes. Bonjour Gilles Boeuf.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes biologiste marin, président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors vous avez, comme nous tous, découvert cette publication en début de semaine. En quoi ce fameux opa ou saumon des dieux est-il si différent de tous les autres poissons?
Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près 35 000 espèces de poissons aujourd'hui, et l'immense majorité à la température du milieu extérieur, donc de l'eau de mer qui les entoure. Hein. Tous les poissons qu'on connaît, sauf deux groupes qui étaient connus jusqu'à présent, qui sont les thons, 13 espèces de thons, et les 13, on va le voir, étaient particuliers, et quelques requins océaniques également, toujours des grands poissons. Et on montrait en fait que quand on fait une mesure de la température interne, différents tissus, on mesure la température de l'œil, du cerveau, des muscles, du foie, ou du tube digestif, ils n'avaient pas la température de l'eau de mer exactement. Le record qui était connu, c'était un listao, un petit thon, un skipjack, qui une fois avait été mesuré 21 degrés plus chaud que l'eau de mer qui l'entourait.
Ah oui.
Donc toute la légende était partie des animaux poissons qui pouvaient commencer à thermoréguler. Et là, celui-ci est particulier parce qu'il est encore plus performant que ces 13 espèces de thon ou que ces quelques requins. Il y a aussi les marlins et les spanons.
Alors pourquoi il a battu tout le monde à plate couture, celui-là?
Oui. Plate couture, je ne sais pas, parce que j'ai lu le papier rapidement tout à l'heure. Bon, dire l'appeler poisson à sang chaud, c'est un peu exagéré. Comment est-ce qu'on met ça en évidence, hein? On avait fait une manip à Hawaï, en 79, où dans une grande piscine, on avait mis un thon, un poisson ordinaire et un dauphin. Et le plus vite possible, on avait baissé la température du bassin de 26 degrés à 16 degrés, en mesurant les températures dans le dauphin, dans le poisson qui était un poisson perroquet, et dans le thon. Et on avait montré que le poisson perroquet, comme tous les poissons classiques, suivait exactement les fluctuations du milieu extérieur, il passait de 26 à 16, que le dauphin, il bougeait pas, il restait à 35, et que le thon était intermédiaire. Il partait pas de 26, mais de 24, et il finissait pas à 16, et il finissait, par exemple, à 18. Alors, ce qui montre sur ce poisson particulier, c'est que lui, il est capable des mêmes performances, encore en plus fort, et surtout, c'est un poisson qui descend assez bas dans l'océan, à des profondeurs, la température est très basse. Température où ne vont pas les thons, presque pratiquement jamais. Et ce qui montre aussi, c'est qu'il a un muscle, comme le fait le thon, d'ailleurs, quand on mange du thon, il est très différent des autres poissons, sa jambe est très rouge. Qui est le cas de ce saumon des dieux, hein. Oui. On comparait au saumon parce qu'il avait une couleur très très rouge, très foncée aussi. Ce poisson a un muscle incroyablement capable de produire de la chaleur. Chaque millimètre cube de muscle fait mieux que des animaux supérieurs, qui thermorégulent eux. Et en plus, il sait conserver cette chaleur. Parce que faire de la chaleur, c'est une première performance. Ça, on peut faire sur un effort physique violent. Mais ensuite, on la perd. Et donc, il a mis au point des systèmes, comme en ont les thons aussi, qu'on appelle des échangeurs de chaleur à contre-courant, que nous, humains, nous avons dans les poignets ou dans les chevilles, et qui permettent, lorsque le milieu est froid, d'éviter au sang chaud d'aller à la périphérie du corps, et au contraire, lorsque le milieu est chaud, de libérer toute cette énergie à la périphérie du corps par des systèmes, effectivement, de petites veines ou d'artères qui se ferment ou s'ouvrent. Ce qu'on appelle ces fameux échangeurs de chaleur à contre-courant. Et cet opa, lui, en a partout, alors que les thons, on avait en amont de la branchie. Et d'autres picots, on n'avait que dans quelques endroits, les thons qui allaient vers des eaux plus froides, par exemple, comme l'albacore ou le thon rouge, on avait plus. Mais celui-ci est encore plus performant.
Oui, et opa, c'est son nom hawaïen, d'ailleurs, hein, Axel. Hein.
Et qu'est-ce que ça lui permet de faire de spécial, de pouvoir conserver de cette chaleur?
Alors, c'est très clair qu'il y a une réaction immédiate, une relation immédiate entre la vitesse de nage et la température constante qui est maintenue.
Il va vite, ce poisson?
La contraction musculaire, hein, la contraction du muscle est très dépendante de la température extérieure. Donc, il peut nager beaucoup plus vite.
Et donc, il chasse mieux, c'est ça?
Il échappe à des prédateurs, au lieu de capturer des proies. Et surtout, il va plus dans des eaux plus froides que ne le faisaient les thons. Si les thons nagent si vite, c'est parce qu'ils ont commencé en partie à thermoréguler. Mais on peut pas dire que c'est un poisson à sang chaud. Il est quand même sensible aux fluctuations de l'environnement. C'est pas un dauphin, hein. La température bouge quand même en relation avec l'extérieur. Mais moins, beaucoup, beaucoup moins que sur les autres poissons, c'est vrai.
Donc, Gilles Boeuf, vous contestez un peu le titre qui a été répandu dans les médias du monde entier, hein, quand même, en disant que c'est le premier poisson à sang chaud jamais découvert.
Oui, c'est vrai. Journalistiquement, je ne vais pas le critiquer. C'est vrai, mais dans le détail, c'est quand même pas un dauphin.
Hein. Oui, absolument. Alors, son secret, paraît-il, est dans les branchies, hein, plus particulièrement,
oui.
C'est vrai?
Oui. Oui, parce que vous savez, chez les poissons, la grande surface d'échange, c'est la branchie. Hein, et c'est le gros problème des poissons, parce que plus elle est grande, plus ils peuvent aller chercher de l'oxygène, mais plus elle est grande, plus en même temps, ils ont des problèmes de régulation de l'eau et des sels, d'échange entre le sang et l'eau de mer à l'extérieur. Et donc, il a des branchies extraordinairement performantes dans la capacité à se protéger des pertes de chaleur. C'est au niveau de la branchie que les poissons ordinaires qui font de la chaleur la perdent. Lui, il arrive à faire que sa branchie ne perde pas cette chaleur à l'extérieur une fois qu'il l'a produite dans ses muscles. Il a également une caractéristique, c'est qu'il produit de la chaleur également par des mouvements très particuliers de ses nageoires.
Vous pensez qu'on pourra en trouver encore d'autres, des poissons qui se réchauffent ?
Pourquoi pas ? Vous savez, moi en biologie, il y a longtemps que j'ai dit que des choses étaient impossibles, non. Vous savez, la biologie, c'est vraiment la science par définition. On trouve toujours des exemples qui viennent confirmer les règles, comme on dit. Donc moi, je reste tout à fait ouvert à des découvertes extraordinaires de performances du vivant. Dans leur comportement et dans leur physiologie, les animaux sont exceptionnels. Rappelez-vous ce petit moineau récemment qu'on a découvert comme étant capable de cuire les asticots qu'il avait attrapés pour nourrir ses petits sur le capot d'une voiture qui avait fait 100 km. Et les petits, ils préféraient nettement les asticots cuits que les crus.
Ouais. Et ce poisson, il ressemble à quoi, Gilles Boeuf ? Parce qu'on a mis sa photo sur la page Facebook de la Tête au Carreau.
Il est très beau. Il est bleu foncé et rouge. Hein, et souvent, souvent on le trouve avec les thons, d'ailleurs. On le pêche souvent. Avec, c'est un poisson assez rare qu'on ne voit pas souvent, qui est vraiment très, très, très beau poisson, très joli. Méfions-nous, parce que dans la littérature, j'ai vu cette semaine dans les articles, ils ont mis une image de poisson lune. C'est pas du tout un poisson lune. Hein. C'est l'opale, en frisopale, qui est un animal très intéressant. Bien dans son aspect, puis maintenant on apprend qu'en plus il est très performant en capacité à thermoréguler mieux que les autres poissons.
Et grâce à lui, donc, on parle de biologie marine, c'est pas mal finalement.
Voilà, c'est toujours très bien, il faut toujours en parler. D'ailleurs, on parle de biologie marine parce que si on n'en parle pas, on oublie la biologie marine.
Vous voyez, voilà. Gilles Boeuf, en ce moment, il y a une exposition justement sur les grilles du Jardin des Plantes autour de l'eau.
Oui, autour du littoral. En fait, on fête l'anniversaire du Conservatoire du Littoral et c'est Frédéric Larrey qui déjà nous a donné de tellement belles images du monde océanique, qui a fait une série de photos sur les grilles du Jardin des Plantes, du Jardin Alpin, avec de merveilleuses photos des littoraux français. Pas forcément des images de sites que l'on connaît, à la fois en métropole et en Outre-mer. Vraiment exposition à voir, on a un littoral fabuleux. Et on fera le 4 juin prochain, à Paris, à l'Université Pierre et Marie Curie, une conférence climat-littoral. Et c'est là que sur le littoral se produit le plus la remontée du niveau de l'océan, bien sûr.
Merci beaucoup, Gilles Boeuf, pour vos explications. On a tout compris grâce à vous sur le saumon des dieux. Merci beaucoup.
Au plaisir.
Et bonne journée. À très bientôt. Et puis Axel, on retrouve la photo de ce poisson sur la page Facebook de La Tête au Carré.
Et le podcast sur le site franceinter.fr.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les cloportes seraient des combattants du réchauffement climatique. Ces petits crustacés terrestres sont en effet particulièrement friands de petits microbes qui ont la particularité de libérer le dioxyde de carbone des sols lorsque la température augmente. Le nombre de ces microbes augmente aussi et donc la quantité de CO2 libérée dans l'atmosphère. Mais des chercheurs américains ont remarqué qu'en ajoutant des cloportes à ces sols, ils parvenaient à limiter efficacement le CO2 qui s'en échappe. En dévorant les microbes en grand nombre, les cloportes ralentissent la libération du CO2 et facilitent son intégration durable dans les sols. Le panda raffole du bambou, mais son intestin, visiblement beaucoup moins, connu pour être très friand des jeunes pousses de bambou, ce proche cousin des ours a pourtant une flore intestinale peu évoluée et encore très proche de celle des carnivores. C'est ce qu'affirment des chercheurs chinois qui ont analysé les crottes de 45 pandas. Leur système digestif ne contient que très peu d'enzymes capables de briser la cellulose des plantes pour en extraire les sucres. Une seule solution s'impose donc pour survivre, manger beaucoup de bambou. Et puis il n'a que 17 ans, mais il a déjà créé son entreprise, une ONG dans le domaine de l'environnement et développé plusieurs prototypes révolutionnaires. Raymond Wang, ce jeune génie canadien, vient de gagner le Gordon Award, qui est considéré comme le Nobel des ados. Son projet propose un système de purification de l'air des cabines d'avion, permettant de réduire sensiblement l'inhalation des pathogènes par les passagers. Il vient d'empocher $75 000 et vous allez donc entendre certainement parler dans les prochaines années de Raymond Wang.